Et bonjour à tous, bonjour Baptiste.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Bonjour à vous les auditeurs, on se retrouve pour cette 5e émission, déjà 5 émissions du Forum des Sports. Émission de début mars, mi-mars carrément, on est déjà là, mi-mars, et oui. Ça fait déjà un petit moment qu'on vous a pas retrouvé. Mais on arrive avec du frais, avec de l'actualité du mois de mars. On va commencer avec Baptiste qui va nous parler de l'actualité sportive.
Ouais, quelques brèves avec du vélo et du biathlon notamment.
Ouais, du tennis.
Voilà. Du tennis aussi, oui.
Très, très polyvalent le Baptiste. Ensuite, moi je vous parlerai du tournoi destination de rugby qui s'est terminé samedi. Ouais, c'est samedi, c'était il y a deux jours. Voilà, qui compte dans le paysage rugbystique français. Enfin, on vous parlera, dernier sujet, de la Champions League,
ouais,
du foot.
Des coupes européennes de foot en général, ouais.
Ouais, petit focus sur la Champions League, mais oui, on vous oublie pas, mes amis marseillais, mes amis lillois, on en parlera des autres coupes d'Europe. Et on terminera par le classique, par le récap palois.
Le récap palois, ouais. Ouais. Une habitude maintenant.
C'est ça, pour les locaux. Je te laisse commencer avec tes petites brèves.
Ouais, donc on va attaquer avec du vélo. C'était Milan-San Remo ce week-end, premier monument de la saison cycliste, avec un duel attendu chez les hommes entre Mathieu Van Der Poel, le vainqueur sortant, et Tadej Pogacar, qui cherche toujours à gagner cette classique. Mais au terme d'une ascension du Poggio, dernière ascension avant l'arrivée sur la Via Roma de San Remo, il n'y a pas eu de différence de fait, et c'est au sprint que le Belge Jasper Philipsen, coéquipier de Mathieu Van Der Poel qui s'est dévoué pour lui dans le final, a remporté son premier monument de sa carrière. On passe au tennis avec le premier Masters 1000 de la saison en Californie, à Indian Wells. Donc chez les femmes, on a Iga Świątek, la numéro 2 mondiale, qui l'a emporté face à Maria Sakkari 6-4-6-0. Et chez les hommes, une finale Alcaraz-Medvedev comme l'an dernier. Et c'est, comme l'an passé, un back-to-back pour Alcaraz qui s'impose 7-6-6-1 face au Russe Medvedev. Et au biathlon, c'était la dernière étape de la saison au Canada, à Canmore. Alors chez les hommes, c'était plié. Hein. On savait que c'était Johannes Bø qui allait remporter le classement général, le gros globe de cristal. Et c'était plus indécis du côté des femmes entre un duel entre Lisa Vitozzi, l'italienne, et la norvégienne Ingrid Tandrevold pour le gros globe de cristal. Et c'est l'italienne qui finit par s'imposer au classement général en devançant Tandrevold sur la Mastart. Une Mastart remportée par Lou Jeanbonneau. Avec cette victoire sur la Mastart, la Française finit second du général au final et remporte le petit globe de cristal de la spécialité. Donc voilà, une saison chez les Françaises aboutie, avec 3 Françaises dans le top 5. Un peu plus compliqué chez les Français, où il faut confirmer, notamment pour Fillon Maillet et Jacques Léon. La bonne surprise côté français, c'est Éric Perrault, voilà, un 2001, un moins de 25 ans, qui commence à se faire une place sur le circuit mondial de biathlon. Donc, on va passer des sports d'hiver au rugby,
ouais.
Ici Nation.
Ouais, alors nous, on joue pas sur de la neige, on joue sur de l'herbe, voilà. De l'herbe bien humide en Irlande. Alors là, on a parlé lors de la précédente émission des journées 1 et 2. Voilà, bon, je vais revenir à partir de la journée 3, même si je vais être un petit peu plus bref sur la journée 3 qui s'est déroulée il y a à peu près 3 semaines maintenant. Alors on a vu le match Irlande-Pays de Galles avec la victoire de l'Irlande 31-7. Bonus offensif pour l'Irlande. L'Irlande qui a confirmé qu'elle était la grande équipe de ce tournoi des Six Nations, et les Pays de Galles, voilà, qui ont affiché leurs limites. Des Irlandais vraiment bons sur ce match, et des Gallois qui, encore une fois, montraient de l'envie, mais ne montraient que ça, et pas de consécration collective. On a vu Warren Gatland prendre la parole hier, et assumer qu'avec une équipe de Pays de Galles comme ça, il préférait prendre des mecs maintenant et les amener à la Coupe du Monde 2027. Moi, je suis plutôt d'accord avec cette manière de faire. Mais bon, voilà, on sacrifie un petit peu les résultats actuels pour des résultats futurs. Mais bon, en attendant, voilà, grosse victoire de l'Irlande. Victoire aussi de l'Écosse face à l'Angleterre. Énorme victoire de l'Écosse qui a dominé les Anglais, notamment sur les lignes arrières, avec un énorme John Van Der Merwe qui a marqué 2 ou 3 essais, je ne sais plus là. Et le petit Emmanuel Feyiwaboso aussi, dont on avait parlé à l'émission précédente, qui a marqué un excellent essai, vraiment très bel essai, quelques secondes après être entré en jeu. ces deux ailiers dégagent tellement de facilité sur le terrain que ça en devient presque frustrant, tellement les autres n'arrivent pas à se mettre à ce niveau. Mais voilà, au final, grosse victoire de l'Écosse sur l'Angleterre. L'Écosse qui fait un bon tournoi au final. Dernier match de cette troisième journée, France-Italie. On a commencé très bien ce match en dominant le jeu d'avant. Olivon qui marque un essai et qui prouve notre domination. On passe très vite à 10-0 au bout de 15 minutes de jeu. La mêlée française domine dans les premières 30 minutes avec cet axe Tuilagi-Antonio qui pèse plus de 300 kilos. Mais on n'arrive pas à se détacher au score. Les avants s'éteignent peu à peu. Les arrières sont un petit peu apathiques. Et les Italiens commencent à nous mettre en difficulté dans les rucks. Et avec une excellente défense, vraiment excellente défense des Italiens dans ce tournoi. Ils étaient bien parés. La défaite aurait été normale, méritée et même honteuse tant on manquait à l'appel dans le combat. Même notre point fort, la mêlée, a été mise en difficulté en fin de match, notamment avec la rentrée de Dorian Aldeguerri, remplaçant étiqueté spécialiste de mêlée, mais absent dans le jeu et en cruelle difficulté en mêlée fermée. Le contraste avec le Georges-Henri Colombe qu'on a eu face au Pays de Galles est criant. Le seul point positif de ce match, c'est la patte de Gonzalo Quesada qui prend forme après un premier match perdu, mais de bonne facture face à l'Angleterre. Puis un match face aux Irlandais où les Italiens avaient clairement pas envie de gaspiller des forces. Les Italiens auraient pu trouver la victoire, car moi je la trouve kiffante, cette équipe d'Italie, elle méritait la victoire. Mais finalement, je suis un petit peu dégoûté pour eux sur cette fin de match. Alors j'aurais été encore plus dégoûté si ça n'avait pas été contre la France. Au final, bon, je suis content qu'on n'ait pas perdu. Mais voilà, pénalité de Paolo Garbisi qui arrive sur le poteau lors de la dernière minute de jeu. Les Italiens ont fait un putain de match et ils nous ont éteints. Mais bon, au final, 13-13, match nul.
Et durant ce week-end, il y avait le rugby à 7 ouais. À Los Angeles, Antoine ouais. Dupont.
C'est ça, on a vu les deux premières étapes d'Antoine Dupont et de cette équipe transformée maintenant. Après un tournoi encourageant au Canada, conclu en quart de finale, j'ai plus le classement final, les Français avaient rendez-vous à Los Angeles pour l'étape suivante, et ce sera la victoire finale, victoire d'étape, avec une victoire en finale 21-0 face à la Grande-Bretagne. Quel tournoi de notre équipe qui disputera les Jeux Olympiques cet été. Et pour celui qui est devenu l'icône de cette équipe et du rugby à 7, Antoine Dupont. Eh bien Antoine Dupont, même si certains pouvaient mettre des réserves, il a réalisé un super tournoi. Il montre que la transition entre le rugby à 15 pour le rugby à 7 a été possible pour lui en quelques semaines seulement. Ça annonce du bon pour cette équipe de France de rugby à 7 pour les Jeux Olympiques, même si en attendant on va déjà savourer cette victoire d'étape, première victoire d'étape depuis 2005 pour le rugby à 7 français. On va enchaîner avec la quatrième journée du tournoi de destination, ouais. Ouais, c'était la semaine dernière. On a eu les deux dernières journées bloc sur bloc. On commence par une magnifique victoire des Italiens face à l'Écosse. On venait d'en parler, les Italiens ont confirmé en s'imposant 31-29. Ouais. Ouais, c'est ça, je me suis confondu les scores. 31-29 pour l'Italie face à l'Écosse. Je ne vais pas trop pouvoir vous parler de la victoire des Italiens face à l'Écosse. Et aussi de la victoire anglaise face aux Irlandais, parce que j'ai pas vu les matchs en entier, et que j'ai pas envie de vous dire des banalités ou on se convoit partout, voilà. Je vous lis juste les deux messages que j'ai envoyés concernant le match Angleterre-Irlande. Alors déjà à la fin du match, c'était Marcus Smith est fou, voilà, après ce dernier drop salvateur, j'en connais pas beaucoup des gens autres que des Anglais qui auraient pris le drop à la 80e minute du match. Et aussi que l'Angleterre a plus de French flair que la France, c'est à quoi on m'a répondu que c'était pas compliqué. Voilà, les Anglais qui ont un très beau jeu d'arrière dans ce tournoi. Donc voilà, victoire 31-29 de l'Italie, on vient de le dire, face à l'Écosse. L'Écosse qui prend quand même le bonus offensif et défensif, alors que l'Italie fait une victoire sans bonus à 4 points. Belle opération pour l'Écosse quand même, tout de même. Et victoire 23-22 de l'Angleterre et le bonus défensif pour l'Irlande. En revanche, ça je l'ai vu bien sûr, il fallait être au rendez-vous, je peux vous parler de l'énorme match des Français face aux Gallois et du retour de ce French Flair dont on parlait. Une équipe remaniée suite aux blessures, suspensions et autres choix du coach. On a vu notamment Nicolas Deporter en 12, même s'il passait numéro 13 sur certaines actions. Léo Barré à l'arrière qui a réalisé deux matchs corrects, on ne leur demandait pas beaucoup plus en même temps. Thomas Ramos en 10 qui a réalisé un excellent match, le Garek en 9 qui a été parfait, la deuxième barre flamand mais à fou qui aurait dû jouer tout le tournoi et qui marche finalement en cette deuxième ligne. Et je vais le dire, la meilleure du circuit international, j'ai pas peur de l'affirmer. Et voilà, je pense que c'est pour notre bonheur, cette deuxième ligne flamand met à four. On va très bien manger pendant les 4 ans qui arrivent. Je vous parlais de Colombe juste avant, il a réalisé un excellent match aussi. Pour moi, il a gagné sa place dans l'équipe, à voir pour la deuxième place avec Thomas Laclaya, qui pour moi devrait jouer. Thomas Laclaya est vraiment énorme. Mais sûrement au détriment de Dorian Aldeguerri. J'ai pas pour habitude d'être méchant avec des joueurs, mais il faut être juste. Et Aldeguerri n'a pas fiché un niveau suffisant en équipe de France pour garder sa place. Pour le match global entre l'équipe de France et les Pays de Galles, le match a été bon. Notre équipe de France était dans son match, les intentions offensives étaient enfin bonnes, derrière ça combinait bien, et surtout devant, la prestation était top. Nos avants étaient vraiment alertes, les soutiens offensifs qui faisaient tant défaut lors des premiers matchs de ce tournoi étaient au rendez-vous. Le jeu était rapide, 65% de ballons sortis en moins de 3 secondes des rucks. C'est vous dire comment Nolan Le Garec a pu transformer ce jeu très rapidement. Voilà l'équipe de France qu'on voulait voir, avec des attentions, de la confiance dans la tête. La mêlée a été top, les Français ont profité de la faiblesse galloise au poste de pilier droit pour enfoncer plusieurs fois le pauvre Assirati. Mais même si à la mi-temps la différence n'était pas faite au tableau des scores, on prend deux essais sur des percées galloises en première mi-temps. Et j'ai été étonné de la porosité de notre second rideau, qui ne comportait très souvent que Léo Barré, avec le choix de laisser et Le Garec et Ramos et tous les ailiers dans la ligne défensive. Voilà, on a beaucoup vu ces retours défensifs qui n'étaient pas faits. On l'a payé. Offensivement, on remarque quelques passes loupées, mais c'est pas grave, les mouvements étaient bons, même si perfectibles. Et voilà, en deuxième mi-temps, c'était la régalade. Des actions qui mènent enfin à des essais. Notre super sub, Romain Toffifenois, qui s'en va contrer un dégagement gallois pour marquer un essai en solitaire. Finalement, tout le monde a été au rendez-vous. Très bonne nouvelle. Mentalement, on était dans le match. Offensivement, quelques déchets, mais on dominait tellement que ça ne s'est pas ressenti. Et puis, bon, c'est le Pays de Galles en face, il ne faut pas l'oublier. Le Pays de Galles, l'équipe la plus faible de son destination. Victoire 24-45, plus gros score infligé au Pays de Galles sur ces terres de l'histoire. Bonus offensif pour la France, on va s'en contenter pour le moment. Un Pays de Galles en difficulté dans ce tournoi, avec une équipe très jeune, inexpérimentée. Face à l'Italie, on aurait pu s'attendre à un duel pour la cuillère de bois, mais on l'a vu, les Italiens ont gagné un match face à l'Écosse. Et si les Italiens concrétisaient ce tournoi avec une deuxième victoire, ce serait la première fois depuis 11 ans, depuis 2013, que les Italiens sortiraient d'un tournoi avec deux victoires. Finalement, vous l'avez vu, victoire des Italiens, c'était 24-21, ouais, 24-21, bonus défensif pour les Italiens. Cette équipe d'Italie qui est enfin au top, une troisième ligne de niveau international, les Negri, Cannone, Lamaro, voilà, ils sont au niveau international, une ligne de trois quarts, Brecht, Menoncello, au centre c'est du caviar, Louis Laina, le renfort et Monti Ioane aux ailes, c'est excellent, Garbici au top, et pour les Gallois, bah, comme disait Doui dans la série Malcolm, je m'attendais à rien mais j'ai quand même été déçu, Sam Costello a sorti l'un des pire match de l'histoire récente du temps de destination. Il a loupé minimum 3 pénales touches, j'ai arrêté de les compter un moment. J'ai pas compris pourquoi il était tout le temps hyper loin dans la ligne offensive galloise, c'est-à-dire que quand ton 10 est au poste de numéro 13 et dès qu'il touche la balle, il s'arrête et fait des passes catastrophiques, bah tu peux pas t'en sortir. Les Gallois ont quand même réagi en fin de match, comme souvent dans ce tournoi. En fin de match, les Gallois arrivent à se rebeller. Mais finalement, victoire très méritée pour ces Italiens qui, on l'espère, ne vont pas exploser en pétard mouillé. Car on a parfois vu des équipes italiennes prometteuses, mais finalement ne pas concrétiser. Là, je pense qu'on tient quelque chose, on tient un bon groupe, on a un bon coach. Il y a moyen de continuer pour les années prochaines. Terminer cinquième, c'est tout de même dommage pour l'Italien, avec deux victoires, un match nul. 11 points, seulement cinquième, c'est dommage, mais en même temps, on a eu un gros niveau dans le tournoi destination cette année. Voilà, on vous l'a dit, victoire 24-21, finalement, de l'Italie.
Et le deuxième match de cette cinquième journée, c'était Irlande-Écosse. Une victoire des Irlandais pouvait sacrer les Irlandais dans ce tournoi destination.
C'est ça, seuls les Anglais avaient une réelle chance de victoire en cette cinquième journée. Et finalement, les Irlandais ont annoncé le coup près avant le début du match Angleterre-France. Victoire en ce jour de la Saint-Patrick. On a entendu d'ailleurs la chanson du soldat. hymne de la République d'Irlande avant le match. Voilà, ils ont joué le Ireland's Call, l'hymne de l'équipe de rugby et la chanson du soldat, hymne de la République d'Irlande. Un essai de Sheehan pour les Irlandais, Sheehan qui a récupéré gratuitement un ballon sur une touche écossaise. Puis un essai de Andrew Porter en deuxième mi-temps. Les Irlandais ont concassé les Écossais, ils ont joué dans leur camp. Les Écossais ont tenu le score en construisant très bien leur match, des pénalités de Finn Russell et un essai de Hugh Jones. Victoire 17-13 finalement des Irlandais qui assurent leur fin de tournoi et montrent que la meilleure équipe cette année, c'était l'Irlande. Dernier match, France-Angleterre, c'était samedi soir, victoire espérée pour la France, mais qui n'était pas acquise. On a vu une très belle équipe d'Angleterre lors de ce tournoi, ils ont fait tomber les Irlandais. Mais même dans ces heures d'incertitude, l'équipe de France est capable de sortir deux gros matchs. Un gros pack, une mêlée dominante même si mise à mal, une bonne touche, mais surtout des rucks nickel pour le deuxième match d'affilée, ça fait plaisir, c'est ce qu'on attendait des avants français. Les arrières français n'étaient pas encore au rendez-vous, notamment Nicolas Deporter qui peine un petit peu à trouver ses repères. Mais c'est normal, cette ligne d'arrière est nouvelle, elle n'est pas encore installée. On lui pardonne. Surtout que les arrières anglais, eux, ont été au rendez-vous. Un Alex Mitchell blessé dès la première minute, mais qui a tenu son rang, qui a fait un très gros match. Oli Lawrence qui a été excellent aussi, on l'a vu notamment la course. Sur son essai, voilà, la course un petit peu sortante, tchac-tchac pour éliminer Gaël Ficou, c'était vraiment propre. Tommy Freeman, Marcus Smith, même George Ford, ces joueurs ont été au rendez-vous. Mais voilà, l'équipe de France qui gagne, j'ai envie de dire que c'était une victoire plus mentale. Ça fait 10 ans que je regarde l'équipe de France et ça fait 10 ans qu'on est habitué à perdre ce genre de match. Mais là, voilà, je l'ai dit, je regardais le match avec mon père. Je lui ai dit à la 78e minute, on va le gagner ce match, je le sens. Et voilà, pénalité à la dernière minute de Thomas Ramos. Voilà, belle manière de terminer ce tournoi.
Est-ce que tu penses qu'avec ces deux dernières victoires contre les Gallois et les Anglais, avec notamment un effectif rajeuni et de frais, est-ce que tu penses qu'on a réussi le tournoi au final ?
Je pense que le tournoi ne peut pas être réussi parce qu'avec avec une défaite face aux Irlandais et ce qui a été affiché lors des trois premières journées, clairement on ne peut pas s'en satisfaire vu le niveau de l'équipe de France sur précédent mandat. Mais je pense qu'il faut aussi savoir remettre les pieds sur terre. Le précédent mandat était un mandat excellent. Il va falloir retourner à des attentes plus normales. Et voilà, aussi se féliciter de ce rebond. Moi, il y a beaucoup de détracteurs de Fabien Galthié. Moi, j'ai tendance à plutôt bien aimer Fabien Galthié dans ses sorties, dans ce qu'il dit. Et là, voilà, Fabien Galthié nous a dit c'est pas la fin du tournoi, c'est le début de quelque chose, c'est le début d'un nouveau mandat. Et moi, voilà, je crois en ça. Je pense qu'il a essayé de continuer avec l'équipe des 4 années précédentes, ce qui n'a pas marché, et qu'il va être obligé de réenclencher un nouveau rythme, un nouveau mandat, un nouveau cycle. Voilà, c'est le mot que je cherchais, un nouveau cycle. Et je pense que voilà, on le tient un peu, ce nouveau cycle. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette équipe de France ?
Moi, j'étais pour, déjà, au début du tournoi, qu'on mette du 109, un peu, les deux porteurs qu'on voyait qui marchaient à l'UBB, le Garec... même des Louis Barré, après, bon, c'était compliqué de tous les faire jouer.
Et Léo Barré.
Non, ouais. Louis Barré, c'est...
C'est Louis Biel.
Louis Barré, c'est son frère, il joue au billard handball. C'est pour ça que j'ai...
Ah ouais, c'est vraiment son frère.
Ouais.
D'accord.
Il joue en réserve.
Ouais. Je savais pas.
Je vais en parler après, bon, c'est pas grave. Donc voilà, après, forcément, quand on a un pack solide qui avance, c'est plus facile pour le 9 d'éjecter les ballons et de jouer derrière. Bon, à voir la tournée en Argentine, ce sera sûrement l'équipe en développement, entre guillemets, où Galthié devra se passer des finalistes, il me semble.
Ouais, demi-finalistes.
Des demi-finalistes aussi, ouais. De top 14, donc voilà. Prochain gros rendez-vous, la tournée d'automne en France, il y a les All Blacks, je crois qu'ils viennent. Donc on verra tout ça, puis il y aura Dupont et Ntama qui seront revenus, ouais. Aussi, ça a changé pas mal de choses, je pense.
Ouais, ouais. Ouais, on le rappelle, prochain rendez-vous pour l'équipe de France, tournée cet été avec deux matchs face à l'Argentine, un match face à l'Uruguay et un dernier match avec une équipe de France A. Équipe de France, comme tu as dit, développement avec des joueurs qu'on voit pas. Mais ça parlait du Chili, ça parlait d'un espèce de 15 mondial à la Barbarians, bref, c'est pas encore fixé. On vous confirmera ça peut-être dans la prochaine émission si on a l'occasion. Mais voilà, restez à l'affût.
Bon, d'une compétition européenne à une autre, un sport à un autre aussi, nous allons vous parler des compétitions européennes de foot.
Ouais. avec le tirage de la Ligue des Champions qui a eu lieu ce vendredi. On le rappelle, le tirage le plus important pour nous Français, le PSG qui tombe face au Barça. On va vite fait vous dire les autres tirages avant de vous en parler. Arsenal, Bayern de Munich, Real Madrid, Manchester City et Atlético Borussia Dortmund. Premièrement, alors je sais pas, quel est ton rapport au PSG ? Est-ce que toi tu soutiens le PSG en compétition européenne ou...
Oui, il faut être quand même derrière les clubs français, on va dire.
Et t'en penses quoi de ce tirage ?
C'est-à-dire que quand j'ai regardé le tirage, il restait 4 équipes à tirer, le Barça, le PSG, le Real et City. Le Barça, c'était indéniablement le meilleur tirage. Quand on voit aussi le placement des demi-finales, ça paraît être quand même être un bon tirage. Pas le meilleur, mais c'est un bon tirage quand même pour le PSG. On connaît l'antagonisme entre les deux clubs. Maintenant, ça fait la cinquième fois depuis 10 ans qu'ils se rencontrent en phase finale de Ligue des Champions, avec cette remontada que personne n'a oublié. Ça va être un match ouvert. De toute façon, on peut pas dire que le PSG ou même le Barça est favori. Ça va être un match ouvert entre deux équipes qui, je pense, se cherchent un peu encore. Un PSG où on voit que Luis Enrique, il se tâte sur certaines compositions, sa gestion avec Mbappé, sa défense aussi, c'est un sacré chantier avec l'éclosion de Beraldo. Et l'autre côté, le Barça, Xavi, il a pas mal de blessés aussi, il compose avec. Donc je pense que ça va être une belle affiche comme toutes les autres affiches.
Mmh. J'ai envie de revenir sur un point précis. La gestion de Mbappé, moi ce que je comprends pas, c'est que tous les médias ont l'air de tourner ça en clash Enrique-Mbappé. Déjà, moi ça m'insupporte les gens qui inventent des clashs, on n'a eu aucune déclaration, il n'y a aucune remontée d'informations, ça, c'est pas parce qu'un coach met quelqu'un sur le banc qu'il y a un clash. Ouais. Et puis surtout que les nanerfs, faut pas oublier que Mbappé il était blessé lors de la rencontre la plus importante de la saison. Match aller face au Bayern, il était blessé. Là je pense que c'est tout à l'honneur de Luis Enrique de préserver Mbappé, de lui éviter des blessures bêtes.
Oui, surtout qu'en championnat, c'est plié, il reste la Coupe et la Ligue des Champions jouée.
C'est ça. Et puis que Mbappé, cet été, va enchaîner l'Euro. Il a l'air de vouloir faire les JO, même si c'est pas fait. Il va enchaîner la saison prochaine avec le Real.
Je pense que c'est pas fait non plus aussi, le Real.
C'est pas fait non plus. Mais je pense que c'est quand même une bonne nouvelle pour Mbappé qu'il arrive à se préserver sur quelques matchs de championnat qui comptent un petit peu moins.
Oui, après, tu connais les médias, ça fait toujours parler, quoi. Ce genre de choses.
C'est le but. Et sinon, oui, pour revenir à notre sujet initial, parce qu'encore une fois, on a la facilité à dériver. Moi, je vais vous le dire clairement, enfin, je trouve ça plus correct d'afficher ses biais. Moi, je suis supporter du FC Barcelone, et c'est clair que nous aussi, de nos échos, c'est la partie de tableau la plus facile, entre guillemets. Je pense que c'est pas être présomptueux que de dire que le vainqueur de ce PSG-Barça a de grandes chances d'être en finale. De l'autre côté, il y a l'Atlético de Madrid, il faut y faire gaffe, c'est une équipe très particulière à jouer en Ligue des Champions, même si on l'a vu que hier, le Barça a tordu l'Atlético de Madrid 3-0.
Ouais, ils étaient moussés de leur huitième de finale, ils sont allés jusqu'au pénalty.
Ce Barça a tourné.
Mentalement et physiquement, ils ont laissé quand même beaucoup d'influx, quoi.
Oui, et puis l'Atlético de Madrid ne joue plus du tout la Liga, il leur suffit d'être qualifié en Ligue des Champions. Alors que le Barça joue la deuxième place face à Girona, même si c'est de bon augure. Pareil, je pense comme toi que ça va se jouer à peu près 50-50. Je partirai sur un léger avantage PSG quand même, parce que Kylian Mbappé, il n'y a pas de joueur de ce calibre au Barça, il n'y a pas de joueurs qui peuvent débloquer des matchs à coup sûr.
Puis on sent que c'est l'année ou jamais pour le PSG. Certes, ils n'ont pas fait une phase de poule extraordinaire, mais ils arrivent à sortir quand même. On annonçait un PSG en reconstruction où un échec en Ligue des Champions ne serait pas dramatique pour Luis Enrique et son avenir au club. Mais quand on voit Mbappé, sa dernière année au PSG, c'est vraiment l'année ou jamais. De la chance au tirage quand même, parce que tu prends la Sociedad en 8e. T'as pas trop dur
sur les
tirages.
Oui,
c'est sûr.
C'est ça.
Faut que ça tourne un peu aussi. Après, on va se régaler dans tous les cas avec Real City. Non, pour les fans de foot, ça va être sympa.
Très gros match. Moi, je l'annonce déjà à ma chargée TD que je ne rendrai pas mon TD la semaine du 16. Je regarderai le match. Mais voilà, très gros match. Alors, pour les autres, Atlético, Borussia Dortmund, deux équipes un petit peu de gangsters, de bandits, voilà. C'est pas les équipes les plus plaisantes à avoir joué au foot, mais c'est les équipes qui peuvent te sortir un 0-0, un 1-0, un but à la dernière minute... surtout l'Atlético de Madrid.
Ouais.
Je pense que je sais pas à quoi m'attendre avec ce Borussia Dortmund. Trop incertain. L'Atlético, ça pourrait passer. Et voilà, pour l'autre partie de tableau, la partie de tableau de la mort.
De la mort qui tue.
C'est ça. On en parle un petit peu moins parce qu'on est en France, on a l'habitude de regarder le foot à travers le PSG, surtout le foot européen. Mais voilà, ce Arsenal-Bayern de Munich, c'est un match très particulier entre un Arsenal qui a une équipe top niveau. Moi, je pense vraiment que Arsenal a l'une des meilleures équipes européennes.
Manque d'expérience quand même à ce niveau-là.
Puis voilà, manque d'expérience. Et de l'autre côté, le Bayern de Munich, c'est pareil, c'est une énorme équipe. Et avec cette année, une faiblesse mentale qu'on n'a pas l'habitude de voir du côté du Bayern.
Ouais, mais quand même, le Bayern, ils ont plus que la Ligue des Champions à jouer, ils sont à 10 points de Leverkusen. Alors que Arsenal, ils ont laissé des plumes en championnat, ils sont premiers, à égalité avec Liverpool et un point d'avance sur Manchester City, il me semble. Donc ça va être une belle affiche. Quoi qu'on en dise, ça va être une très très belle affiche.
Très belle affiche. Et on verra aussi William Saliba et Dayot Upamecano, les Français en défense centrale, qui auront certainement une place de titulaire à se jouer pour l'Euro. Et le dernier match, Real de Madrid-Manchester City. Alors bon, je vous l'ai dit, moi je suis fan du Barça, donc j'espère que City va un petit peu étrier le Real. Même si, on sait jamais, cette équipe du Real...
Ah, le Real en Ligue des Champions, voilà. faut pas les enterrer trop vite. Hein. On se souvient de la campagne d'il y a 2 ans où Benzema, à chaque fois, les sort un peu du trou. Donc le Real en Ligue des Champions, c'est spécial. Ouais.
Puis surtout que là, j'ai l'impression que c'est un parcours de saison typique Real de Madrid. Quoi. En championnat, t'es solide. Ton 8e de finale, en vrai, tu dois pas le gagner contre Leipzig. Hein. Leipzig loupe tellement d'occasions que...
Bah, sur le match retour, ils peuvent avoir quelques regrets. Ouais.
C'est ça, mais voilà, au final, le Real de Madrid est là. Le Real de Madrid n'est jamais un outsider. Oula, j'ai galéré à le dire. Le Real de Madrid est toujours un favori. Jude Bellingham est le Real de Madrid même. Le joueur qui peut te marquer des buts dans l'arrêt du temps quand tu penses que c'est perdu. Mais voilà, très gros quart de finale à venir.
Il n'y a pas que le PSG en Coupe d'Europe. Il y a la Ligue Europa avec l'OM.
Qu'est-ce que t'en penses des tirages de l'OM?
Ouais, OM Benfica avec le match retour au Vélodrome, ouais. C'est pas trop mal. Je veux dire, quand on voit les autres équipes qui restent en compétition, Liverpool, West Ham, Leverkusen, tu te dis que Benfica, t'as un coup à jouer, quoi. C'est pas foutu, et puis pourquoi pas s'offrir une demi-finale de rêve contre Liverpool. Je veux dire, l'OM quand même retrouve des couleurs avec Jean-Louis Gasset. Il y aura le Classico 3 jours avant, mais je pense que l'OM a quand même une sacrée carte à jouer.
Ouais, ouais, et puis là je regardais, ouais, c'est ça, en championnat, le Benfica est encore en lutte pour le titre.
Ouais.
Donc il faudra qu'il fasse attention aussi. Et puis c'est ça, quand on voit des grosses affiches en Europa League, hein, on n'était plus habitués les dernières saisons. Mais là, Liverpool et Bayer Leverkusen qui ont le niveau Ligue des Champions, qui vont être les. En plus, qui sont dans 2 parties de tableau. Opposés, non?
Oui.
Ils se rejoignent en finale, normalement.
Ouais.
Voilà.
Ça promet.
Ça promet. un bon spectacle. En plus, voilà, duel italo-italien, AS Rome, AC Milan. Moi, j'aime bien ces duels de même nationalité. Mais voilà, bon courage à nos amis marseillais qui ont failli croire à la remontada, eux aussi. J'ai un petit peu serré les fesses face à Villarreal.
J'aurais pas aimé être supporter marseillais dans le dernier quart d'heure. Donc, tout
ouais,
à fait.
Moi, j'ai pas vu le match parce que voilà, j'avais d'autres choses à faire jeudi soir. Mais voilà, je suivais un petit peu. C'est passé à pas grand-chose. Et surtout, t'imagines si tu es Marcelino et qu'il vient t'éliminer de Coupe d'Europe en plus après.
En plus, ouais.
Après avoir gagné 4-0 à l'aller. Ouais, ouais, bon, ça aurait été le scénario.
4-0, ça reflétait pas de mon opinion quand même l'écart qu'il y avait entre ces deux équipes. Parce que il y a un CSC, Aubameyang, il met un but un peu... un peu chanceux, mais presque, et un penalty. Donc bon, l'OM a su en profiter au match aller. Au match retour, Gasset a fait tourner un peu, c'est normal. Mais bon, 3-1 avec un bon Paul Lopez, ils sont fait un peu peur quand même.
L'important, c'est la qualification, quoi.
Oui,
surtout pour Marseille et leur histoire européenne, on le sait, c'est toujours important de se qualifier.
Ouais, surtout que bon, championnat, ils ont quand même l'Europe, elle est un peu cherchée, mais s'offrir une épopée en Ligue Europa,
c'est ça.
C'est pas plus mal.
Surtout qu'eux ont la place de passer, contrairement à notre club français, en Ligue Europa Conférence. Oui, c'est ça, Ligue Europa Conférence.
Ouais.
Je pense que Lille a pris le pire tirage possible.
Y avait un seul éventail, un seul favori, c'était Aston Villa, Unai Emery. Ils sont tombés sur eux. Bon. Ça fera quand même une belle affiche, on sait jamais. Aston Villa qui se bat aussi pour... conserver la quatrième place en PL, quatrième place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Donc bon, on sait jamais. Un Lille avec un chevalier exceptionnel dans les cages. Les Niñoro, bah, faut des Diakité derrière qui font des gros matchs. Et Jonathan David qui score. Tu peux les sortir. Tu peux...
Ils ont fait un bon match en plus face à Brest cette semaine, Lille.
Ouais, ils ont gagné. Enfin, ils ont fait un gars, ils se sont fait rejoindre à la fin. Mais bon, c'est une équipe qui l'a jamais quand même, Lille. Ils étaient menés 2-0 chez eux il y a 15 jours contre Rennes. Ils ont égalisé par Jonathan David qui fait une très très bonne saison encore, qui confirme. Et il sera quand même, je pense, l'une des affaires du prochain mercato estival.
Ouais. Surtout que Jonathan David est à 15 buts. 15 buts en 3 mois et demi.
Ouais.
Meilleur buteur, tout but compris, des 5 championnats majeurs. Voilà, Jonathan David sera à surveiller. Et puis, match retour au Stade Pierre-Mauroy, surtout. Oui, je connais des supporters lillois. Ce qu'ils ont envie de voir, c'est des belles affiches européennes. Ça fait toujours plaisir de recevoir un club anglais, un bon club anglais en plus, avec une excellente équipe à Aston Villa, avec un milieu McGinn, Douglas Luiz, excellent, Moussa Diaby en plus, qui est en pleine bourre. Voilà, ça va être des matchs très plaisants. Et puis pour aller vite fait sur les autres oppositions de ces quarts de finale de Ligue Europa Conférence, Fiorentina, Victoria Plzeň, PAOK Salonique, Club Bruges et Fenerbahçe, Olympiakos. Voilà, c'est...
Fenerbahçe bon Olympiakos, dans les deux stades, il y a une sacrée ambiance. Ça va être tendu, je pense.
Ça va être chaud. Je pense qu'il va y avoir plusieurs policiers qui vont devoir faire attention.
Quand on voit ce qui s'est passé hier au match Trabzonspor Fenerbahçe, ça va.
Oui, j'ai vu l'envahissement de terrain, la bagarre. C'est chaud, le football turc. Hein.
Le football turc. Ouais,
c'est ça. Bon, alors, on en a fini avec ces compétitions européennes. Encore une fois, on vous parle de l'actualité sportive de tout. La planète, de toute la planète, de tout notre monde européen de sport. Mais on va se recentrer sur notre petite ville paloise avec Baptiste.
Avec donc le récap palois, c'est la rubrique qui va mettre en avant l'actu sportive des clubs de l'agglomération paloise. Et on va commencer avec le Billard Handball, où je l'ai dit tout à l'heure, il y a Louis Barré, le frère de Léo Barré, qui évolue dans l'équipe réserve en tant que gardien de but. Billard Handball qui pointe toujours à la 7ème place de ce championnat suite au nul face à Massy et la défaite face à Tremblay, qui est le leader de ce championnat. A noter dans la poule le forfait général de Villeurbanne, donc, qui offre une victoire sans jouer aux Palois. Prochain rendez-vous face à Valence, vendredi 22 mars au Sporting d'Est. On poursuit avec le Pau FC qui se devait ce week-end de gagner face à Concarneau pour se donner un peu d'air au classement et prendre ses distances avec la zone de relégation. On vous rappelle que le 17ème cette année, avec la refonte du championnat de Ligue 2, descend en national. Et une victoire des Bretons de Concarneau les rapprocherait à un point des Palois. Pau qui restait sur deux défaites consécutives face à Caen à la maison et à Dunkerque a stoppé cette série en s'imposant 2-0 face à Concarneau avec des buts du capitaine CV et de Yanis Begraoui qui est prêté par le TFC. Les jaunes et bleus pointent à la 11ème place de ce classement de Ligue 2 avec 7 points d'avance sur le premier non relégable, mais surtout, c'est ça qui fait la beauté de ce championnat de Ligue 2, 3 points de retard sur le 5ème Rodez. Alors le 5ème cette année en Ligue 2 donne droit à un pré-barrage contre le 4ème de Ligue 2. Le vainqueur de ce pré-barrage affrontera le 3ème de Ligue 2 et ce sera le barragiste de Ligue 2, donc le vainqueur entre le pré-barrage et le 3ème de Ligue 2, qui fera face sur une confrontation aller-retour face au 17ème, au 16ème de Ligue 1. Donc le barragiste de Ligue 1.
Bref, rien n'est joué, c'est la Ligue 2 comme on l'aime.
Ouais, ouais,
des équipes serrées, des équipes proches en niveau.
C'est vachement serré cette année, la Ligue 2, c'est pas plus mal.
Et puis la relégation, ouais, je vois Concarneau et Bastia qui se jouent la place, et puis ouais, peut-être 3.
Dunkerque qui revient bien, revient très bien avec
Demba Bamba. Je le vois bien mettre des buts, lui.
Demba Bamba en tant que directeur sportif, l'ancien joueur de Chelsea notamment. Donc voilà, à voir cette fin de saison. On enchaîne avec la section paloise, qui était de repos ce week-end pour la dernière journée des destinations. Pas de doublon, donc. La section reste sur une victoire 42-40 dans le derby berno-basque face à Bayonne, pour ceux qui n'avaient
pas
compris.
C'est pas le derby, c'est le derby dont on se contente.
Oui, exactement. Pour les Bayonnais, ils préfèrent jouer Biarritz. Le Biarritz qui lutte pour sa survie en Pro D2. Avec surtout cette année un extra sportif à Biarritz qui. Ouais.
Le club de Biarritz qui est vendu en plus.
Qui a été
un
vendu
euro symbolique.
Non, il le qui vend. Est en vente, ouais.
Par il, le vend, bon. Il a dit à la mairie, je le vends pour un euro, trouvez-moi repreneur. Bon, ouais, la gestion Biarritz,
un peu catastrophique.
Voilà. C'est comme Gérard Lopez pour les Girondins de Bordeaux.
Exactement,
pour
c'est la même chose. Veulent,
comparaison.
Une victoire au partenaire de Luc de Whitelock, pardon, le capitaine, de rester à la 7ème place de top 14. Un point de la 3ème place qui est détenue par La Rochelle. Prochain rendez-vous pour la section paloise, un double déplacement contre Clermont et au Stade Toulousain le week-end d'après. Le Stade Toulousain qui devra enregistrer le retour de ses internationaux ce week-end-là. Ce sera pas facile d'aller gagner là-bas. Deux rendez-vous en championnat donc, avant de retrouver les joutes européennes face au Connacht.
Ouais, à domicile.
Le dimanche 6 avril.
C'est ça. J'espère qu'ils vont gagner.
8ème de finale de Challenge Cup.
Ouais. Ce serait beau de gagner, ce serait beau de faire un petit parcours européen.
Ouais. Bon, à la maison, c'est possible. Ouais.
C'est possible.
Et on va finir avec l'Élan Bernay qui disputait son quart de finale de la Coupe de France face à Dijon ce week-end. Après avoir tenu le choc ce week-end face aux pensionnaires de Proie, un niveau au-dessus donc, les Palois ont craqué notamment avec pas mal de blessés. Le score, j'ai plus en tête, mais c'est un sacré écart. Il n'y avait pas Anthony, ni Bruyas, ni Sané, donc c'est trois membres du 5 majeur quand même. Donc ce qui les a amputés dans ce quart de finale. La finale de la Coupe de France opposera cette année Dijon, donc tombeur de l'Élan Bernay, face à Strasbourg, vainqueur de Monaco en demi-finale. Monaco qui était tenant du titre l'an passé. Il ne reste donc que le championnat à jouer pour les coéquipiers de Masters. Ils sont actuellement 6e avec un bilan positif, 13 victoires pour 11 défaites. Et là aussi c'est un double déplacement qui attend les Bernais à Saint-Chamond vendredi 22 mars, et un déplacement à Rouen le 26 mars, le mardi 26 mars.
Et c'est où ça, Saint-Chamond ?
Saint-Chamond, c'est... bonne question. J'ai envie de te dire...
C'est étonnant de voir des villes pas très connues.
J'aurais envie de te dire, Saint-Chamond, c'est vers Besançon, par là-haut. J'en sais rien.
Saint-Chamond, c'est dans l'Auvergne-Rhône-Alpes. Dans la Loire.
Dans la Loire.
D'accord. Mais bravo aux habitants de Saint-Chamond qui ont réussi. Ah bah c'est dans la banlieue de Saint-Étienne.
Ah ouais, d'accord, ok.
Construire un club de basket pour une ville
pourquoi
petite.
Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Dans ce championnat de Pro B, on a aussi le Stade Rochelet qui est premier d'ailleurs de ce championnat de Pro B.
En même temps, quand tu fais jouer Ni Antonio au basket.
Juste pour revenir au Teriga Open, donc le tournoi challenger de Pau qui a eu lieu il y a un mois, c'est le Finlandais Otto Virtanen qui a remporté le tournoi en ne laissant aucun set au passage. Il bat en finale le Suisse Riedi au terme d'une finale serrée quand même. Le Finlandais est l'un des hommes de ce début de saison en challenger avec deux titres. Et une demi-finale au tournoi suivant en Pau, le demi-finale à Lille, au play-in de Lille.
Et tu nous avais promis Benoît Paire, il a fait quoi au final ?
Benoît Paire, il était, on l'a appris après, il était un peu blessé, il avait quelques douleurs au tendon d'Achille. Il avait fait quelques infiltrations, ce qui l'a pas empêché de passer le premier tour, avant d'échouer contre justement Otto Virtanen, assez sèchement, 6-0, 7-6 quand même, je crois, si je me souviens bien.
J'espère quand même que Benoît Paire prend encore du plaisir à prendre du tennis.
Ouais, là, il est, je crois, normalement aux États-Unis. Il a perdu aux qualifications d'Indian Wells, mais il a pu jouer un challenger dans la foulée à Phoenix, où il a passé un ou deux tours, et là, il est aux qualifications de Miami, du Masters 1000 de Miami.
D'accord. Mais bon courage à Benoît Paire.
Ouais.
Voilà. Et c'est fini, je crois.
C'est fini, ouais.
Ouais, on a fini tous nos sujets.
Ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés.
Voilà.
Rendez-vous au prochain épisode.
Ouais, la date n'est pas encore fixée, mais en attendant, restez alerte sur le foot, sur le rugby. On a encore une très belle fin de saison à venir. On vous le promet. On vous dit au revoir.
Au revoir, à la prochaine.
Au revoir, Baptiste. Au revoir,
au revoir
tout le monde.
Arnaud.
Allez, bisous.